Retour sur un bel événement qui s'est déroulé à Domrémy les samedis 27 et dimanche 28 septembre. Durant deux jours, s'y est déroulé un grand pèlerinage pour célébrer le 600e anniversaire des apparitions de Saint-Michel à Sainte-Jeanne d'Arc. Ce pèlerinage était organisé par l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc avec le concours du diocèse de Saint-Dié. Et parmi les nombreuses propositions faites durant ce week-end, il y avait un cycle de conférences à la basilique Sainte-Jeanne d'Arc. Trois conférences données le samedi après-midi. Monseigneur Brugues, archevêque émérite d'Angers, est intervenu sur le thème « Le pèlerinage de vie humaine dans l'espérance ». Le père Lettel sur le thème « Sainte-Jeanne d'Arc, vierge et martyr » et le frère Aubry sur le thème « Saint-Michel-Archange, protecteur de la France ». RCF était présent sur place à enregistrer ces trois conférences et nous vous proposons de les réentendre sur ces ondes mais aussi sur rcf.fr. Et nous commençons dès maintenant par l'intervention de Monseigneur Brugues, archevêque émérite d'Angers, qui nous parle du pèlerinage de vie humaine dans l'espérance.
Espace débat sur RCF en Lorraine.
Monseigneur, vous êtes le premier intervenant. Je ne vais pas faire une longue biographie ni une longue introduction, mais juste quelques éléments vous présenter. Vous êtes né en 1943 à Bagnères de Bigorre. Vous êtes dominicain. Vous avez prononcé vos vœux solennels en 1972 et vous aviez été ordonné en 1975. Vous êtes professeur de théologie morale à l'Institut. Vous avez été professeur de théologie morale à l'Institut catholique de Toulouse, puis à l'Université de Fribourg. Il me semble que vous étiez très proche d'un certain Ratzinger devenu Benoît XVI. Vous avez été nommé en 2012 à la tête des archives secrètes du Vatican et de la bibliothèque apostolique.
Et évêque d'Angers, quand même.
Évêque d'Angers, j'allais le dire juste après, c'était le titre. Et donc, vous êtes évêque émérite d'Angers. Voilà, et vous allez nous parler donc de l'espérance, en quoi être à Domrémy dans ce monde compliqué est un signe d'espérance et en quoi Jeanne a un message d'espérance.
Le titre exact de la conférence qui m'a été demandée est « La vie humaine comme pèlerinage dans l'espérance ». Marcher. J'ai toujours aimé marcher. Je l'ai fait toute ma vie. Ma mère apportait volontiers que mes premiers pas avaient été précoces. En revanche, je fus lent à apprendre le langage. Elle s'en inquiétait. Ce petit parlera-t-il un jour ? D'aucuns diront que je me suis bien rattrapé depuis, ne serait-ce qu'en entrant dans un ordre voué à la prédication. Et aujourd'hui encore, alors que l'âge a rendu plus rigides les articulations, je continue à marcher. Mourir en marchant, peut-être. Marcher libère l'esprit et la parole. M'asseoir devant une table et composer directement sur la page blanche ou l'écran, je n'ai jamais su m'y conformer. Je songe à cette réflexion de Flaubert. On ne peut penser et écrire qu'assis. À quoi Nietzsche répondait: je te tiens pour nihiliste, être cul de plomb, voilà par excellence le péché contre l'esprit. Et seules les pensées qu'on a en marchant valent quelque chose. Pour ma part, sans être disciple de Nietzsche, bien sûr, avant de préparer un cours, une conférence, une homélie surtout, je dois toujours me promener un bon moment. Comme si j'avais besoin d'aspirer des idées qui virevolteraient autour de moi ou remuer, vous savez, le bocal de l'imagination pour faire remonter du fond quelque inspiration enfouie. Quand on venait pour un conseil ou un accompagnement spirituel, j'invitais la personne, si du moins elle pouvait le faire, bien sûr, à faire quelques pas dans le parc du couvent de Toulouse et plus tard dans le magnifique jardin à la française de l'évêché d'Angers. Quelques-uns souriait. Je me sentais, à plus d'un titre, disciple du portique. À Rome, enfin, je me rendais chaque matin à pied au siège d'abord de la Congrégation pour l'éducation catholique, à la tête de laquelle j'avais été nommé, et plus tard, à la Bibliothèque Vaticane et aux archives. De mon temps, on disait les archives secrètes. Et je vous avoue qu'il existe des pénitences plus rudes que celle de traverser à son rythme une ville aussi belle. Et ce goût pour la marche qui explique ma prédilection pour les pèlerinages, sans tomber nécessairement dans ce qu'on appelle le roman familial, on m'a quelquefois rappelé que le nom patronymique de ma famille venait d'un petit ermitage situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Barcelone, où l'on montait en procession pour certaines fêtes de la Vierge, Notre-Dame de Bruges. Adolescent, j'animais avec d'autres élèves un patronage dans une paroisse qui venait de se créer dans un quartier de la périphérie, et nous conduisions souvent nos jeunes à Notre-Dame de Mougères, à une trentaine de kilomètres. Et là, je découvris Saint-Dominique pour la première fois, sous la forme d'une statue de pierre. Et encore aujourd'hui, alors que j'ai pris ma retraite dans cette bonne ville de Béziers, la ville de ma famille, les grands moments spirituels se célèbrent à Notre-Dame de Consolation. Dans ce bon diocèse d'Angers, je me mis à fréquenter Notre-Dame de Béhuard, où, à la demande du roi Louis XI, les cloches sonnèrent l'Angélus pour la première fois au monde. Et plus tard, je me suis attaché à la chapelle de Notre-Dame de Montplacé, au baroque touchant, et ce l'est au milieu de la campagne du Baugeois. Puis vint le temps des grands pèlerinages, à Lourdes, bien sûr, où nous nous rendions chaque année. Je n'oublie pas que va commencer le grand pèlerinage du Rosaire la semaine prochaine. À Notre-Dame de Liban, vénérée par des chrétiens aussi bien que par des musulmans. Et puis Notre-Dame de Guadeloupe et aux portes de Mexico, qui drainent vers l'immense basilique moderne des millions d'Américains, tandis que les plus fervents gravissent à genoux les dernières marches avant d'accéder à la vaste esplanade. Et puis Paris, où il m'était demandé de donner les conférences de carême. Paris, où l'on salue, selon le murmure incantatoire de Peggy, en Notre-Dame, le double vaisseau de charge aux deux rives de Seine, vaisseau de pourpre et d'or, de myrrhe et de cinname, vaisseau de blé, de seigle et de justesse d'âme, d'humilité, d'orgueil et de simple verveine. Et voilà qu'aujourd'hui je me trouve pour la première fois dans ma vie dans un autre lieu de pèlerinage, invité justement à parler de la vie humaine comme un pèlerinage dans ce contexte particulier d'une année jubilaire placée sous le signe de l'espérance. Nous étions un petit groupe affilié aux compagnons de Saint François, jeunes, une vingtaine d'années. Tous ou presque étudiants, c'était à la fin des années 60, et nous avions décidé de partir en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous avions cheminé pendant plusieurs semaines avant d'atteindre la ville mythique. L'histoire, surtout si elle est reculée, est toujours matinée de légendes. On raconte que l'apôtre, Saint Jacques, serait venu évangéliser la péninsule ibérique Il aurait débarqué à Padrón, serait demeuré environ 7 années en Galice, d'où il aurait regagné l'Orient. Et à sa mort, en l'an 44, ses disciples auraient embarqué son corps à Jaffa, et l'esquif finit par s'échouer à l'embouchure d'un petit fleuve. Abandonné à cause des persécutions, son tombeau aurait été redécouvert au IXe siècle pour devenir le plus grand pèlerinage de l'Europe médiévale. On demanda un jour au père Lagrange, un dominicain, savant pionnier du renouveau biblique, un scientifique donc, si dans ce lieu que nous aimions beaucoup, la Sainte-Baume, Saint-Maximin, en Provence, Marie-Madeleine avait effectivement fini ses jours dans ce lieu. Il répondit, « Je ne sais si elle y est venue dans le passé, mais je sais qu'elle s'y trouve maintenant. » Combien de lieux de pèlerinage seraient heureux de pouvoir affirmer la même chose ? Et pour en revenir à Compostelle, peu de sites, à l'exception de Jérusalem, souffrirent autant des vilenies de l'histoire. La menace du corsaire anglais, Drake, on cache les restes de l'apôtre dans une ville et puis on les oublie jusqu'en 1789. Et voilà qu'arrivent les troupes de Napoléon qui pillent, qui détruisent. Bref, le pèlerinage de Saint-Jacques n'attirait plus grand monde. En 1987, c'est-à-dire une vingtaine d'années après notre périple, le bureau des pèlerins de Compostelle enregistrait seulement 2900 pèlerins. 30 ans plus tard, 2010, la fréquentation s'est levée à 272 000. Elle n'a fait que croître depuis, multipliée par 4, presque 1 million. La maigre fréquentation de l'époque explique sans doute que le cardinal archevêque de la ville tint à nous recevoir ce petit groupe d'une vingtaine et à célébrer une messe uniquement pour nous. Si vous allez aujourd'hui à Compostelle, vous verrez à quel point il est difficile de pouvoir célébrer une messe, tellement la basilique est sollicitée. Au cours de l'homélie qu'il a prononcée, quelques paroles ont éclairé toute ma vie. Vous venez d'effectuer un pèlerinage, c'est bien. Mais ne vous y trompez pas. Les quelques centaines de kilomètres que vous venez de parcourir à pied ont raconté votre vie. Non pas seulement votre vie passée, très courte, 20 ans. Mais j'en suis certain que vous avez passé en revue tout ce que vous avez vécu, les choix que vous portez en vous, les désirs de futur, car un pèlerinage raconte toute une vie, celle du passé, mais aussi celle de l'avenir. Un pèlerinage est un condensé de l'existence humaine, et notre vie chrétienne ne trouve son sens que si elle est vécue comme un pèlerinage. Plus tard, beaucoup plus tard, un journaliste et écrivain, Jacques Lasman, qui confessait son athéisme, se demandera « Faire le pèlerinage, n'est-ce pas, en définitive, tourner avec ses pieds, pas à pas, page après page, le grand livre de la vie, vivre en pèlerin ?» Je reçus une sorte de confirmation de cette intuition il y a 3 ans. J'avais décidé d'accompagner un camarade de classe, très handicapé, à Saint-Jacques. J'étais allé voir ma mère, qui était arrivée comme épuisée à un grand âge. Elle ne marchait plus, ne parlait plus guère, et ne mangeait qu'assistée. Est-ce que l'existence lui pesait ? Je lui ai dit, maman, je pars en pèlerinage à Saint-Jacques. Et elle, qui parlait à peine, me dit, tu me prendras avec toi. Et elle me quitta, elle nous quitta, le dernier jour. Comme pour nous dire, ça suffisait. La vie est un pèlerinage. Il lui manquait 2 mois pour célébrer ses 100 ans. J'avais été invité à m'adresser à l'enseignement catholique du diocèse de Sydney, en Australie. Mes obligations terminées, j'étais responsable des universités catholiques dans le monde entier, des écoles catholiques. Je m'étais promis une journée de repos de marcher dans cette belle ville maritime qui me rappelait, par la lumière qui y régnait, par l'architecture des maisons, le charme de la Californie où j'avais vécu. Et le jour fixé pour ma liberté, il pleuvait à verse. Impossible de marcher, impossible de déambuler, je me suis réfugié dans un cinéma. Et on y projetait un film dont le titre anglais était « The Way », en français « Le chemin » ou « La voie ». Je pense que plusieurs d'entre vous l'ont peut-être vu, je me contenterai d'en rappeler la trame. Voici donc un médecin, arrivé à l'âge de la retraite. On sent qu'il mène une existence un peu vide. Un coup de téléphone le surprend au milieu d'une partie de golf. Son fils, Daniel, avec lequel il ne s'était jamais bien entendu, venait de mourir alors qu'il avait commencé le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et le père décide de se rendre sur place et, emportant avec lui les cendres de son garçon, de poursuivre à sa place, mais désormais en communion avec lui, puisque leur corps n'avait jamais été aussi proche. Quand il était arrivé en Espagne, on lui avait remis les cendres de son fils qu'il portait désormais dans un sac à dos, et de poursuivre la route jusqu'à son terme. Oh, il y a des erreurs, des faux pas, des scènes de tendresse, de drôlerie aussi. Ce pèlerinage est un chemin de vie et il ne s'accomplit jamais tout seul. Ce pèlerin, malgré lui, fait, sans le vouloir, des rencontres et noue des amitiés qui s'approfondissent en marchant. Il y a là Jack, un écrivain irlandais en panne d'inspiration et qui se demande dès lors si sa vie a un sens. Il y a là Sarah, une Canadienne pleine de colère et qui n'arrive pas à faire le deuil de l'enfant qu'elle n'a pas voulu porter jusqu'à son terme. Et puis Jost, un Hollandais bon vivant qui n'a jamais su, qui n'a jamais pu se faire aimer de sa femme. Et donc chacun passe en revue sa vie et pour la première fois sans doute pénètre jusqu'au plus profond de son cœur. Et l'entrée dans la basilique de Saint-Jacques, alors que fume l'impressionnant encensoir actionné par 8 hommes, marque la libération intérieure de ses cœurs et le désir de changer, de s'élever désormais comme la fumée vers des choses plus vraies, plus belles. Saint Paul disait « les choses d'en haut ». Ce médecin désœuvré avait enfin trouvé un fil conducteur pour le temps qui lui restait à vivre. Oh, je ne dirais pas que ce film est un chef-d'œuvre, mais il m'avait touché parce qu'il m'avait fait comprendre qu'il ne parlait pas seulement de la vie de personnage, mais d'abord de ma vie à moi. Il m'expliquait que l'aventure de notre existence pouvait, et même devait, devenir un pèlerinage. Alors que j'ai franchi depuis quelque temps déjà cette étape significative où l'on s'aperçoit que ce qui nous sépare du terme est désormais beaucoup plus court que la distance parcourue depuis notre naissance, il m'a semblé opportun de réfléchir à cette simple question : comment pouvons-nous convertir en pèlerinage l'aventure de notre vie ? Et j'en suis venu à formuler une sorte de petite éthique de la vie humaine comme pèlerinage, qui pourrait se résumer en 6 principes, 6 conseils, qui sont comme autant de recettes de l'espérance. Premier conseil, dépasser le syndrome de Josué. Je viens de parler d'aventure, car la traversée du temps est une aventure. Quelle que soit la manière dont on le considère, le temps reste une épreuve. Il nous lance dans une existence pour laquelle personne parmi nous n'était volontaire. Personne n'a jamais demandé de naître. Partir. Toujours partir vers des terres lointaines. Et comme le dit le poète, traverser des jours et des nuits et des saisons volages. Nous nous levons le matin, mais le soir, nous ne sommes plus tout à fait les mêmes. Nous avons récolté une petite moisson de sensations, de réflexions, de rencontres, mais nous avons aussi grignoté un peu l'espace de notre vie. Nous avons vieilli, quitté. Quitté de force ce que nous avons appris à connaître, et avec quoi nous nous étions sans doute familiarisé et confié en hâte à notre mémoire ce que nous jugeons de plus précieux et puis cinglé vers de nouveaux continents riches d'espoir et de désillusions, heureux ou malheureux. Il nous faut avancer car nous n'avons pas le choix. Comme pour les Hébreux d'antan, à peine la tente est-elle plantée que déjà le signal du départ est lancé. Il nous faut décamper et poursuivre le voyage. Impossible de s'arrêter, impossible de s'attarder. Là, ni pause ni moratoire, naviguer entre le passé et le futur, entre l'oubli et l'inconnu, puisque le présent est par nature éphémère. Le pèlerinage, je veux dire la vie vécue comme un pèlerinage, nous assure que le temps est une épreuve où nous risquons de nous perdre en risquant de le perdre. J'illustrerai cela par cette manie, que je crois invasive, de vouloir tout photographier. Les paysages, les monuments, les proches, les plats qu'on vous sert à table. Quand j'étais à Rome et que je devais traverser la basilique de Saint-Pierre, je regardais les foules arriver par la porte principale et au lieu de sentir l'atmosphère, de regarder la lumière, d'être saisi par ce lieu extraordinaire, le premier réflexe est photographier. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes ces photographies ? Je me le suis demandé et je comprends que c'est là une tentation moderne pour arrêter le temps, pour fixer le temps. Et c'est ce que j'appelle le syndrome de Josué, vous savez, celui qui, pour pouvoir terminer la bataille et arriver jusqu'à la victoire, avait demandé au soleil de s'arrêter. On ne voit plus en direct, mais à travers l'instrument. Et la réalité s'efface derrière cette volonté d'annihiler le temps. On demande à la technique de nous rendre immortels, ou du moins de fixer à tout jamais nos souvenirs. Il nous faut donc, premier conseil, arrêter un fil conducteur afin d'unir le futur au passé, de concilier la mémoire avec la prévoyance et ce fil de le suivre. Notre médecin de ce film l'avait cherché toute sa vie sans le trouver vraiment jusqu'au moment où, forcé par son fils, devenant en quelque sorte le fils de son fils, il s'est lancé sur les chemins de Saint-Jacques. Tenir, durer, progresser sans s'égarer, sans se trahir, sans rien renier de ce à quoi nous tenons le plus et qui nous constitue, et se diriger dans l'espérance vers une fin heureuse et libératrice. C'est cela le pèlerinage. Deuxième conseil, lutter contre la tentation de l'impatience. Au cours du pèlerinage, on se lève certains matins en regrettant d'avoir tenté cette aventure. Les contraintes nous pèsent. Notre pas s'est fait plus lent. Les compagnons de route ne semblent guère se presser. On a envie de crier « Plus vite, ça traîne !» Et on se surprend à regretter le temps passé, à regretter d'avoir couru l'aventure, à rêver comme les Hébreux dans le désert, à ces oignons d'une Égypte qu'ils venaient de quitter. On parlera peut-être de lassitude et pour ma part, j'avancerai plutôt l'impatience, cette grande épreuve de l'existence. Irénée de Lyon, un premier père de l'Église, explique dans des pages savoureuses que Adam et Ève avaient péché non pas par orgueil, mais par impatience. Les premiers parents voulaient tout, ils avaient raison, ils étaient promis à cela, mais ils le voulaient tout de suite, sans attendre la maturation de leur liberté. Ils étaient comme les enfants de l'humanité. Et cette interprétation suggestive permet de comprendre que l'impatience gît à la racine de toute faute. Tout péché est finalement un péché d'impatience. Or, dans un pèlerinage, il n'y a pas de place pour l'impatience. C'est toujours le même pas. Quel que soit le temps, inutile de se presser. Les pieds, ce contact avec la terre éternelle rythme notre marche et le pèlerinage devient une école de vie, un apprentissage de la maîtrise du temps, de l'espérance, l'art de patienter. Troisième conseil, négocier au plus juste la dialectique entassement-détachement. Ceux qui connaissent l'épreuve du pèlerinage, l'épreuve du matin, vous savez, quand on doit refaire son sac. On voudrait l'alléger, ce sac. Et on cherche ce qu'on pourrait laisser et ce qu'on doit nécessairement continuer à porter. C'est l'arbitrage entre le nécessaire et le superflu. Disons tout simplement, et je pense que les plus anciens parmi nous s'y reconnaîtront, que le superflu, avec le temps, se fait plus volumineux. Et donc, le pèlerinage ici joue le rôle d'une école de détachement dont les leçons devraient nous servir pour toute l'existence. Il y a tout au long des ans des objets, dans le sens le plus large, qui se font de plus en plus nombreux, qui s'entassent chez nous, quelquefois malgré nous, dans notre maison, dans notre mémoire, dans notre vie. Et pourtant, il faudra un jour quitter tout cela de manière définitive. Et voilà pourquoi il convient de cultiver, en l'adaptant à l'âge bien sûr, l'esprit de détachement acquis sur une route pèlerine. Quatrième conseil, regardez les autres comme des compagnons de route. Dans ce film que j'ai évoqué comme référence, ce médecin qui commence tout seul est rejoint assez rapidement par d'autres pèlerins qui ont décidé, avec des motivations différentes bien sûr, de prendre le même itinéraire que lui. Et on parle. Et chacun se confie et la confiance s'instaure. Voilà une grande leçon. Dans la vie ordinaire, nous sommes souvent face à face. Et par conséquent, nous nous demandons, ami ou ennemi, allié ou adversaire, comme si notre choix, notre regard se faisait binaire. Tandis que quand on marche côte à côte, qu'on ne se regarde pas en face, la liberté est plus grande. L'autre devient un compagnon de route qui se dirige vers le même terme. Ces distinctions amis-ennemis s'effacent dans la marche. Et le pèlerinage devient ainsi une école de la bienveillance. Cinquième conseil, vivre le pèlerinage comme une mise en œuvre du mystère de l'incarnation. Oh, bien sûr, toutes les religions, toutes les grandes religions connaissent le pèlerinage à l'Inde, Varanasi, la Mecque. Dans ces cas-là, on vient accomplir un précepte, réaliser un vœu, demander une faveur comme la guérison. Dans notre société sécularisée, les motivations se sont diversifiées. Pour avoir interrogé beaucoup d'hommes et de femmes qui avaient décidé de faire toute une partie du pèlerinage, quand je leur demandais pourquoi cette remise en route, les réponses variaient. Prendre du recul par rapport à la vie professionnelle, faire le point sur son existence affective, remettre en question les grands choix de l'existence, en tout cas, vivre un temps qui marquerait une césure. Alors bien sûr, ces raisons ne sont pas inconnues de la pratique chrétienne, mais il y a d'abord, tout d'abord, dans un pèlerinage, la volonté de rejoindre le Fondateur, le Christ, de le toucher. Le rejoindre directement, en retrouvant les lieux mêmes où il a vécu, respirer quand on va en Terre Sainte, le même air que lui, parcourir les mêmes itinéraires, frôler des pierres, voir des constructions qui sans doute l'ont vu passer. Un tel désir de la part du croyant s'apparente à ce que j'appellerais la stratégie amoureuse. Lorsque l'être aimé nous a quittés, n'éprouvons-nous pas le besoin de retrouver les lieux, les choses qui parlent encore de lui ? Malgré l'absence. Et n'est-ce pas là le propos de toute espérance chrétienne ? Rejoindre le Christ directement ou le rejoindre indirectement à travers quelqu'un qui l'a connu de près ou qui a mis son existence au diapason de la sienne ? Sa mère, bien sûr, ses apôtres à Rome, à Compostelle, ou encore tous ceux dont la sainteté personnelle avait fait d'eux une image particulière et particulièrement émouvante de sa sainteté à lui. Rendre visite à quelqu'un qui a touché le Christ afin d'être en retour touché par le Christ lui-même. À Lourdes, on caresse le rocher. À Saint-Jacques, on étreint le buste de l'apôtre. Dans tous les cas, on prend au pied de la lettre l'incarnation du Verbe. Et sixième et dernier conseil, se préparer à franchir le portique de gloire. Encore une fois, les motivations dans notre société moderne peuvent varier. Un objectif touristique, une épreuve d'endurance, comme on dit avec une certaine fierté dans certains milieux, j'ai fait Compostelle. Mais pour le fidèle du Christ, le pèlerinage est une visite à un témoin. Après avoir franchi à Saint-Jacques le double escalier baroque du pèlerin, le pèlerin se retrouve rompu de fatigue, mais ébloui devant le magnifique portique de gloire. Le Christ y trône en majesté, et rarement on l'a représenté avec autant de beauté, de sérénité, justement glorieuse. Il nous invite à entrer chez lui, puisque nous l'avons bien mérité, et nous plaçons nos doigts au pied de son trône afin d'authentifier la sincérité de notre périple et le soulagement d'entendre cette parole « Je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez aussi. » Le pèlerinage nous laisse ainsi comme une nostalgie du paradis qui nous accompagnera tout au long de notre route humaine. soutenant notre espérance. J'ai évoqué tout à l'heure, en commençant, ce premier pèlerinage que j'avais fait en 69, et je rappellerai qu'à la fin des années 60, à cette époque-là, il y avait ce que j'appellerais un courant puriste qui secoua l'Église catholique. Il s'agissait de s'attacher à la foi tout court, à la foi pure, et de la débarrasser de ces manifestations suspectes léguées par l'histoire et les dévotions populaires. On mit en cause le culte des saints, la vénération des reliques et donc le pèlerinage. On me disait, combien de fois ai-je entendu ce refrain ? Oh, tout ça c'est bon pour les vieux. Un demi-siècle plus tard, les pèlerinages n'ont jamais été aussi populaires. Chez ceux qui vont à la messe, mais chez ceux qui ne vont pas à la messe aussi. Ceux qui se sont éloignés de l'Église, comme dans notre film. Au point que le pèlerinage est devenu la manifestation religieuse la plus prisée des jeunes générations. Il suffit de mentionner l'incroyable succès des Journées mondiales de la jeunesse, dû au génie missionnaire de Saint Jean-Paul II. En préparant ces lignes, et sachant que je venais à Don Rémy, j'ai réouvert un très vieux manuscrit, écrit par un moine du Moyen-Âge, et dont le titre évocateur avait retenu mon attention, « Le pèlerinage de vie humaine ». En son temps, ce fut un ouvrage d'importance, à l'égal peut-être, chez nous en tout cas, de la Divine Comédie. Les rois, aussi bien que les plus grands érudits, en avaient fait leur livre de chevet. C'est un texte qui exprime cet art nouveau parisien du XIVe siècle, où l'on voit que les représentations figées de l'époque gothique commencent à bouger, que déjà le réalisme de la Renaissance s'annonce. L'auteur est bien connu, c'est l'abbé Guillaume de Digulville, prieur de la grande abbaye cistercienne de Chalice, qui rédige ce texte entre 1330 et 1358, donc finalement peu de temps avant notre sainte. Oh, le monde traverse à cette époque-là une crise profonde. Les famines jettent les paysans dans le gouffre de la misère. Les guerres durent 100 ans. Tandis que la peste fait périr un tiers de la population. Le chaos l'emporte partout, les révoltes grondent. Et ceux qui survivent à cette atmosphère de fin de monde le font dans l'angoisse la plus profonde. Peur de la mort qui rôde et qui prend le visage de la peste, de la faim. Et j'ai trouvé une expression que je croyais moderne. On parle de dérèglement climatique, déjà à cette époque-là. Les brigands, les soldats. Alors, moines et religieux sortent de leur monastère. Ils partent à la rencontre des hommes. On n'a jamais vu autant de bures sur les chemins de France. Ils prêchent, ils enseignent, ils exhortent et stimulent les consciences. Et les foules ne restent pas inactives. Elles miment des scènes de l'Évangile, les 1000 péripéties de l'aventure humaine. Tous comprennent que le moment est venu d'en revenir à l'essentiel, de retourner au centre de la foi chrétienne, de retrouver l'amitié avec le Christ que l'on présente comme le consolateur, c'est le titre le plus fréquent, l'ami des pauvres, le médecin des âmes et des corps. Et voilà le sens le plus profond du pèlerinage, le toucher pour se laisser toucher par lui, partir pour lui rendre visite. Je me suis donc demandé s'il n'existait pas quelque similitude entre ces temps lointains et le nôtre. Et s'il en était ainsi, le pèlerinage ne serait plus une survivance désuète, mais plutôt une façon adaptée à la postmodernité. parce qu'il repose le pèlerinage, et là je cite un sociologue italien que j'ai bien connu, sur la conscience profonde de l'homme contemporain, d'être en constante évolution, toujours en chemin, en recherche, suivant les traces de l'Éternel qui parcourt les chemins du monde, « homo viator », pour reprendre une expression devenue fameuse de Gabriel Marcel. Un sociologue Cuchet nous montrait dans des livres récents, 3 ans, que la baisse de la pratique religieuse jusqu'à l'effondrement actuel ne daterait pas de l'après-concile, comme on l'avait cru, mais du concile lui-même qui avait paru réduire, pour ne pas dire effacer, les obligations juridiques liées à l'appartenance. Commandement de Dieu, commandement de l'Église, avec notamment le précepte de la messe dominicale, qui en parlait désormais? Et ainsi, le pèlerinage est devenu au choix la forme la plus large, la plus jeune, la plus individualiste, mais aussi la plus immédiate, la plus adaptée à l'affaiblissement des institutions, de marquer son attachement à l'Évangile. Un pèlerinage nous conduit toujours à l'essentiel. Le christianisme parle de conversion. Au contact d'un grand témoin de l'Évangile ou de l'Évangile tout court, nous acceptons de nous laisser toucher par le souffle même de l'esprit et de rêver à une vie parfaite. Face à ceux qui sont demeurés fidèles jusqu'au bout, comme Jeanne et tant d'autres, jusqu'au sacrifice suprême quelquefois, chacun se surprend à se demander « Mais pourquoi pas moi ?» Un pèlerin d'éternité. Voilà ce que nous sommes. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Monseigneur, pour cette belle introduction à notre propre pèlerinage à Domrémy. On peut peut-être prendre une ou deux questions avant une pause et la conférence suivante. Moi, j'en ai une première. Vous avez souligné que Saint-Jacques de Compostelle était tombé un peu en désuétude, a été relevé...
À deux reprises.
À deux reprises, exactement. Et Jean-Paul II, avec les JMJ, à mon avis, a été un des marqueurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une figure d'un pape qui vienne à Domrémy pour relever le pèlerinage de Domrémy, qui est un peu tombé en désuétude aussi, quand même?
Alors, il ne vous aura pas échappé que je ne suis plus à Rome et que, par conséquent, il m'est difficile de donner ce conseil fort avisé au pape actuel. Mais je suis sûr que quelqu'un ne manquera pas de le faire.
Question en rapport avec le pèlerinage?
Ma conférence.
Merci, Monseigneur. En France, quel pèlerinage, peut-être secondaire ou régional ou peu connu, conseilleriez-vous?
Je ne vais pas répondre exactement à votre question, mais c'est une bonne question. Je crois qu'en France, on a des lieux fameux de pèlerinage, Lourdes, par exemple. Et c'est bien que nous acceptions de quitter notre région, notre ville, notre campagne, pour aller assez loin dans ces grands lieux. Mais il y a toujours à proximité de chez nous, je ne connais pas de diocèse où il n'y a pas un ou deux ou des petits lieux de pèlerinage. Et je dois dire que ces petits lieux représentent comme des haltes de paix, de sérénité. Et j'ai souvent dit aux gens que je rencontrais, écoutez, vous n'avez peut-être pas la possibilité de faire un grand pèlerinage, mais allez à tel endroit. Alors, allez à tel endroit parce que véritablement, vous allez réviser votre vie, vous allez sentir le souffle de l'Évangile. Allez-y, prenez un Évangile, méditez, confessez-vous. Et ces lieux de pèlerinage sont, dans notre pèlerinage existentiel, des lieux indispensables de repos et de réflexion. Alors, je ne sais pas ici, évidemment, il y a ce lieu, mais je vous dis, dans tous les diocèses, il y a des petits lieux. C'est un peu comme l'image qui me vient à l'esprit, elle est peut-être maladroite, mais quand on nous conseille de manger local, vous voyez, c'est un peu ce que je dirais du point de vue spirituel. D'autant plus que ces lieux, qui souvent ne sont pas connus, attendent une sorte de résurgence, de résurrection. C'est le moment de le faire.
Est-ce qu'il y a encore une autre question ?
Excusez-moi, Monseigneur, j'ai pas très bien compris le cinquième point, la mise en œuvre du mystère de l'incarnation.
Alors, l'incarnation, dans l'incarnation, il y a le mot chair, hein, incarnation. Donc il y a ce côté de toucher, vous voyez, c'est. Et le pèlerinage, nourrit en nous ce goût du toucher. On va, si vous allez à Lourdes, vous allez toucher le rocher. C'est, vous voyez, c'est pas un exercice intellectuel ou c'est véritablement très très physique. On marche avec ses pieds, on regarde avec ses yeux, on touche. Tous nos sens se trouvent impliqués dans cela. Et à Saint-Jacques de Compostelle, vous montez derrière, vous savez, le maître-autel, et on va par derrière embrasser. Le buste, et je crois qu'un lieu de pèlerinage a besoin de nous faire toucher. Alors, toucher quelque chose, ou quelqu'un plutôt, qui a touché le Christ, de manière à ce que le Christ nous touche. Je ne sais pas si, vous voyez, c'est ce jeu-là, l'incarnation. Et la tradition catholique et les traditions orthodoxes sont très sensibles à cette dimension de toucher. On a besoin de représenter, de nourrir notre nature corporelle avec des images, des sons, des parfums, etc.
Peut-être vous demander une bénédiction avant de partir.
Le Seigneur soit avec vous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils, Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Je vous souhaite un bon pèlerinage et je me recommande à vos prières.
C'était Mgr Brugès, archevêque émérite d'Angers, qui intervenait sur le thème « Le pèlerinage de vie humaine » dans l'espérance à l'occasion du grand pèlerinage pour célébrer le 600e anniversaire des apparitions de Saint-Michel à Sainte-Jeanne d'Arc. C'était à Domrémy le samedi 27 septembre 2025. Je vous rappelle que RCF a enregistré dans le cadre du grand pèlerinage 3 conférences, donc celle de Mgr Brugès que vous venez d'entendre, mais aussi celle du Père Lethel sur Sainte-Jeanne d'Arc, Vierge et Martyre, et celle du frère Aubry sur Saint-Michel-Archange, protecteur de la France. Ces 3 conférences sont disponibles sur rcf.fr.